Bon dimanche, est-ce qu'on assiste vraiment à une avancée à Montreux ou à une simple illusion de progrès? C'est la grande question qui intrigue tout le monde depuis le communiqué du processus de Doha.
C'est la manière dont la stabilisation est mise en scène sans rupture réelle. Pour ceux qui nous rejoignent, on va explorer aujourd'hui la lecture politique et opérationnelle de ce communiqué, les acteurs cachés, le fameux MCVE+ et les fragilités qui persistent.
L'objectif, c'est de démêler ce qui relève de l'affichage diplomatique et ce qui modifie vraiment le rapport de force. On va aussi décrypter les options stratégiques pour la RDC. Alors concrètement, on va analyser le triangle du pouvoir, plonger dans le mécanisme de vérification, mettre en lumière les risques et finir sur les pistes d'action pour la RDC.
On ne va pas se contenter d'une lecture superficielle. On va décortiquer les enjeux, les acteurs en coulisses et surtout ce qui change ou ne change pas sur le terrain.
Ce qui ressort du cycle de Montreux, c'est que le processus de Doha structure le conflit à l'est de la RDC à l'échelle internationale, mais sans chercher à le résoudre immédiatement. C'est comme si le cadre servait à organiser la gestion, pas à régler le fond.
C'est un point essentiel. Même si le communiqué évoque l'accès humanitaire ou la libération de prisonniers, on sent bien que le rapport de force reste intact. Chacun ajuste sa posture, mais personne ne lâche vraiment prise.
Ça donne une impression de progrès, mais en réalité, c'est une stabilisation sous supervision externe. La paix est mentionnée, mais le conflit continue à se jouer sur d'autres terrains.
Et ça pose la question, est-ce qu'on vise vraiment la résolution ou juste un équilibre temporaire? Le triangle RDC, la coalition AFC-MVING 3 et acteurs internationaux est clairement au cœur du dispositif.
Parlons justement de ce triangle du pouvoir, la RDC, l'AFC, M23 et les acteurs externes comme le Qatar, les États-Unis, la MONUSCO, sans oublier le Rwanda en arrière-plan.
Ce qui est fascinant, c'est que la RDC conserve une légitimité internationale, mais elle compense sa faiblesse territoriale par une stratégie défensive et adaptative. On dirait qu'elle gagne du temps, mais reste sur la défensive.
L'AFC, M23, de son côté, devient un acteur reconnu, même sans désengagement. Sa présence dans le processus lui donne une légitimité implicite, et le Rwanda influence tout, mais dans l'ombre.
Les acteurs internationaux, eux, veulent une stabilisation rapide, mais ils gèrent le conflit sans chercher à le transformer en profondeur. C'est comme une orchestration où chacun joue sa partition, mais personne ne dirige vraiment le morceau.
Le mécanisme de vérification MCVE+, présenté comme un outil technique, s'impose en réalité comme un espace de pouvoir. C'est la capacité à qualifier et diffuser les faits qui construit la légitimité des acteurs.
Totalement. Ce dispositif ne se contente pas de constater des violations, il façonne aussi le récit officiel du conflit. Sa maîtrise influence la hiérarchisation des responsabilités et la validation des positions.
C'est le levier le plus stratégique du dispositif. La RDC, si elle veut peser, doit absolument reprendre la main sur ce terrain. Sinon, elle subit un narratif international qui pourrait être défavorable.
Et ça me fait penser à la nécessité d'une contre-lecture rapide des rapports et d'une cellule nationale d'analyse pour ne pas perdre la main sur l'information. C'est presque une bataille de communication autant que de terrain.
Ce qui saute aux yeux, c'est la dissociation entre les engagements diplomatiques et la réalité opérationnelle. On a une fragmentation des chaînes de commandement, des risques liés aux libérations et une dépendance aux acteurs externes.
Ce qui est délicat, c'est que chaque engagement, accès humanitaire, droit international, libération des prisonniers, comporte aussi des risques. Par exemple, la libération peut entraîner une réintégration de combattants ou fragiliser le rapport de force.
L'accélération du processus est surtout une pression externe qui ne garantit pas un ancrage sur le terrain. Et le risque majeur, c'est le fossé entre ce qui est affiché et ce qui peut effectivement être mis en œuvre.
Ça peut rendre le processus fragile, voire miner sa crédibilité sur le long terme. Le risque principal n'est pas l'échec du processus, mais son institutionnalisation dans une stabilité apparente, conduisant à la pérennisation d'un conflit stabilisé sans résolution réelle.
Alors comment la RDC pourrait éviter de subir ce cadre et reprendre la main? Les pistes évoquées sont nombreuses: contrôle informationnel, discipline opérationnelle, encadrement des prisonniers, gestion du facteur Rwanda et maîtrise de la dépendance internationale.
Justement, le premier enjeu, c'est de créer une cellule civilo-militaire pour analyser le MCVE+, produire des contre-lectures et documenter les incidents. Mais il faut aussi renforcer la discipline opérationnelle, diffuser des directives claires et sanctionner les violations.
L'encadrement de la libération des prisonniers est crucial. classifier les profils, structurer le suivi post-libération et contrôler la réintégration, sous peine de voir les capacités adverses se reconstituer.
En parallèle, activer des canaux diplomatiques discrets avec le Rwanda et renforcer les alliances internationales, tout en développant une capacité nationale d'évaluation, sans oublier de structurer une communication cohérente pour éviter une fragilisation interne.
On peut retenir d'abord, Montreux ne modifie pas profondément le rapport de force. Ensuite, le MCVE+ devient un espace clé de pouvoir. Et enfin, le processus reste fragile à cause du décalage entre engagement et mise en œuvre.
Pour faire évoluer le cadre, la RDC doit investir le processus activement, reprendre le contrôle de l'information, renforcer sa discipline et structurer ses alliances, sans attendre une résolution immédiate.
La question est d'initier un suivi national du MCVE+ et de proposer des contre-narratifs pour ne pas laisser l'histoire s'écrire sans eux.
Merci d'avoir plongé avec nous dans cette analyse. On reste en alerte sur les prochains développements et on espère vous retrouver pour continuer à décrypter les dynamiques complexes du conflit à l'est de la RDC.